Les Papes du Vior, une émission réalisée par Monique Cachia-Servière. Mon grand-père me disait toujours...
Tu sais, Monique, il y avait des légendes dans le Vior. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, il y avait même des étrangers. Mais ils venaient pour les papes.
Les papes? Voyons, des papes dans la vallée du Vior? Encore un conte, sans doute. C'est vrai que la vallée du Vior regorge de légendes nombreuses et de contes savoureux. Il fallait bien passer l'éveillé auprès de la cheminée, bien sûr. C'est leur transmission orale qui leur a permis de traverser le temps. Certains auteurs, comme Jean Boudou, Justin Bessou, les ont contés chacun à sa manière, en occitan le plus souvent. Pourtant, l'une de ces légendes, celle du pape justement, la légende des papes du Vior, n'est pas un conte pour veiller. C'est une histoire vraie, de l'histoire donc, de la grande histoire, pourrait-on dire. Pour démêler le vrai du faux, pour rechercher les faits réels, authentiques, et les distinguer du récit romanesque, j'ai rencontré Jérôme Vialaret. Jérôme Vialaret est fou des histoires du Vior. Il est historien, il sait tout sur la vallée. Il est passionné donc, il est conférencier. Pour nous parler des papes du Vior, il a remonté le temps.
C'est vrai que lorsqu'on parle des papes du Vior, on parle de l'échéance d'une histoire qui commence bien avant. C'est ici que ça se termine. C'est une histoire qui commence une quarantaine d'années avant les années 1420, où véritablement on peut commencer à parler de pape du Vior ou de papauté du Vior, puisque c'est à l'occasion du grand schisme et de ses suites que un certain nombre de personnes, dont la plus éminente s'appelle Jean Carrier, sont venues se réfugier dans la vallée du Vior et y rester et tenter de pérenniser quelque chose, une église particulière.
C'était à ce moment-là le grand schisme d'Occident. Il y avait un pape à Rome qui se disait le seul vrai pape de la communauté chrétienne. Et un autre pape, à Avignon, lui aussi réclamait la direction de l'Église catholique. Celui d'Avignon, c'était Clément VII.
Voilà, donc à la mort de Clément VII, c'est un cardinal aragonais, Pedro de Luna, qui va être donc élu en 1394 et qui va prendre le nom de Benoît XIII. Ce Benoît XIII, il va durer très longtemps puisqu'il ne s'éteindra qu'en 1422, après avoir donc dominé la papauté dans l'obédience avignonnaise pendant pratiquement 30 ans. Donc c'est là où effectivement notre vallée du Vior et notre Rouergue vont intervenir.
Le pape Benoît XIII s'enfuit en Espagne à Peniscola. Il est violemment contesté par le nouveau pape romain. Il est aussi abandonné par le roi de France qui se rallie à l'obédience romaine.
Il a fait la démonstration pendant le Concile de Constance qu'il était le seul légitime et qu'il ne pouvait être que légitime à cette époque-là, puisque même à considérer les deux élections, celle d'Urbain VI et celle de Clément VII, comme également légitimes, lui seul, Benoît XIII, était en 1394 élu par le dernier cardinal dont la légitimité ne pouvait pas être suspectée, puisqu'il avait été créé avant le grand schisme de 1378. Donc il démontre tout ça au Concile de Constance. L'empereur Sigismond n'est d'ailleurs pas loin de partager ses vues, mais par fierté impériale, il ne voudra pas, il n'acceptera pas les solutions que Benoît XIII lui propose. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la légitimité de Benoît XIII, donc de Clément VII et de Benoît XIII, elle est canoniquement attestée. Alors revenons au Vior, oui. Donc il y a une personne très particulière dans cette histoire, même une personnalité, je devrais dire, s'appelle Jean Carrier, que la légende fait naître à Espalion. On sait simplement qu'il est Rouerga, sans savoir exactement où il est né. C'est quelqu'un qui est très important parce qu'il est à la fois un des hommes de l'entourage immédiat de Bernard VII, puis de Jean IV d'Armagnac. Il fait partie des hommes liges du comte de Rodez. Et il est très proche de Benoît XIII. C'est quelqu'un qui tient en très haute estime le pape Benoît XIII. Il est celui qui va établir le lien physique, concret, entre les deux. Lien qui est extrêmement important, puisque comme je viens de l'indiquer, Benoît XIII est lâché par tout le monde, sauf par le comte de Rodez. Et vraiment, Jean Carrier, c'est le personnage essentiel, le personnage clé de cette histoire, parce que sans lui, le lien entre le souverain pontife et le comte de Rodez risque de se déliter complètement, voire d'être définitivement tranché.
Le roi de France lance ses mercenaires sur Jean Carrier parce qu'il soutient Benoît XIII. Le comte de Rodez est alors le dernier soutien de Jean Carrier.
Le comte de Rodez va demander à un de ses proches de mettre à disposition de Jean Carrier, qui n'est pas encore cardinal, un château dans les gorges du Vior, le château de Touraine, qui est aujourd'hui sur le territoire de la commune de Crespin, et qui, à l'époque, présentait la particularité, en termes de seigneurie, d'être à cheval sur le Vior. Donc, une partie de la seigneurie relevée pour l'hommage directement au roi de France. C'est la partie sur la rive gauche du Vior, aujourd'hui on dirait côté Tarn, côté Albigeois, pour le côté Rouerga, donc rive droite du Vior, il relève de l'hommage directement au comte d'Armagnac. Jean Carrier va se réfugier dans ce château, et c'est dans ce château qu'il va tenir tête à Géraud d'Aubry, puisqu'il est assiégé, il est bombardé, le château est incendié. Mais avant le siège, qui va quand même durer quelques temps, pratiquement 2 ans, c'est vraiment un endroit qui était réputé imprenable et qui, effectivement, l'est. C'est un endroit qui est sur un éperon rocheux, assez difficile à trouver.
Et à l'issue de ces 2 années de siège au château de Touraine, que devient Jean Carrier ?
Jean Carrier s'enfuit. Il réussit à percer le siège. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au mois de juin 1423, il apprend par un messager de Jean IV d'Armagnac, d'une part qu'il a été créé cardinal 2 jours avant la mort de Benoît XIII, c'est la dernière bulle de Benoît XIII, il crée 4 cardinaux, dont le dernier sur la liste est Jean Carrier. Donc il est fait cardinal. Et le jour où il apprend son élévation au cardinalat, il apprend également le décès de Benoît XIII. Et à ce moment-là, il comprend l'urgence de la situation, puisqu'il sait que d'autres cardinaux ont été créés en même temps que lui. On le lui a dit le même jour. Il sait ou il pressent que ces cardinaux sont restés à Peniscola, que puisqu'ils appartenaient quand même à l'entourage intime de Benoît XIII, et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il va réussir à percer les lignes de Géraud d'Aubry, donc du siège, et il va le plus rapidement possible à Peniscola, où il arrive le 12 décembre 1423. Et là, il apprend ce qu'il pressentait, c'est qu'entre-temps, les 3 cardinaux présents ont élu un archidiacre de Barcelone, de la cathédrale de Barcelone, qui a pris le nom de Clément VIII. Et là, Jean Carrier est furieux, parce qu'il comprend que cette élection a été extorquée par simonie. La simonie, c'est le fait de monnayer les choses saintes. Il va découvrir, il le pressent très vite, que les 3 cardinaux ont été soudoyés par le roi d'Aragon pour élire un homme à sa solde, en définitive. Donc, il va faire le procès de ces 3 coreligionnaires, si je puis dire, donc des 3 autres cardinaux. Il va estimer qu'ils sont coupables, que cette culpabilité les déchoit du droit à élire un successeur à Benoît XIII, et donc la conclusion va s'imposer d'elle-même. Je suis, se dit Jean Carrier, le seul cardinal légitime. Je m'estime légitime à constituer à moi seul le sacré collège qui va élire le successeur donc à Benoît, au pape Benoît, au seigneur Benoît, comme il dit. Et ce qu'il va faire. En 1425, il est toujours à Peniscola et il va, selon les formes canoniques, avec la messe du Saint-Esprit, etc., élire un ruthénois qui s'appelle Bernard Garnier, qui est un de ses amis, de ses proches, et voilà, qui n'apprendra quelques semaines plus tard. Et voilà, sous l'identité de Benoît XIV, que prendra Bernard Garnier, sacriste à la cathédrale de Rodez.
Good morning.
Nous avons donc ici, dans notre rouergue, nous avons eu un pape, Benoît XIV,
oui.
Authentique.
Authentique.
Authentique, ça c'est formidable. Mais qu'est-il advenu de ce pape-là et en quoi est-il lié à notre vieux?
Alors, ce qu'il est advenu, on n'en sait rien parce que on retrouve Bernard Garnier, chanoine à la cathédrale de Rodez, dans les années 1440. Et en définitive, ce dont on est sûr, c'est que Jean Carrier a tenu secrète l'élection de Bernard Garnier pendant très longtemps, jusqu'en 1429, où il va la dévoiler au comte d'Armagnac, mais sans lui révéler l'identité du pape Benoît XIV. Et il semble que Bernard Garnier ait été très vite dépassé par les événements, n'ait pas été forcément ravi de son élection, et se soit démis de sa charge. Alors ensuite, ce que devient Bernard Garnier, il devient un prélat qui continue ce qu'il a toujours fait, donc assiégé à la cathédrale de Rodez. Entre-temps, il a créé de nouveaux cardinaux. Ce qu'ont fait ces cardinaux après, on ne le sait pas. Il semblerait qu'ils aient élu un Jean Carrier. Alors de quel Jean Carrier s'agit-il? Là aussi, rien n'est simple dans cette histoire, puisqu'il y a Jean Carrier dont je vous ai parlé, qu'on appelle Jean Carrier le Vieux, et Jean Carrier le Jeune, qui est son neveu. En tous les cas, il semblerait qu'un Jean Carrier ait été élu et qui aurait pris le nom de Benoît XV. Ce que l'on sait, en revanche, et là on revient à la vallée du Vior, c'est que dans les années 1460, il y a encore un pape et des cardinaux qui se réclament de cette obédience avignonnaise, ou de cette obédience aujourd'hui rouergate ou ségalie ou vioresque. Parce qu'on le sait de manière certaine, puisque un forgeron, qu'on appelle en occitan un patois d'ici, le Faro del Culet, et sa famille refusent d'aller à l'église locale, à la chapelle de Montoux, et suivent les curés qui ont reçu leur onction, ou qui ont été ordonnés par la véritable église. Cette véritable église, pour eux, c'est celle de Bernard Garnier. D'ailleurs, le nom de Bernard Garnier nous est connu grâce aux minutes du procès qui a été fait à cette famille, la famille Tranier, donc de ce forgeron du Coulet dans les gorges du Vior, au plus profond des gorges du Vior, et qui sont restés fidèles donc jusqu'en 1467, puisque le procès s'est déroulé en 1467. Le père est mort avant la fin de ce procès, la fille était condamnée au mur, comme on disait à l'époque, au cachot, et le fils, qui n'a pas voulu abjurer, est mort sur le bûcher.
Ainsi, nous avons eu chez nous, dans nos bois du Vior, un pape, Benoît XIV, et sans doute un successeur, Benoît XV. C'est certain, c'est attesté par l'histoire. Jean Raspail, romancier, dans son roman « L'anneau du pêcheur », reprend l'histoire et imagine que cette lignée des papes du Vior, initiée par Benoît XIV de Rodez, s'est prolongée secrètement jusqu'en 1993. C'est de la fiction, sans doute. Mais alors, toute cette agitation autour de Borébar, de la Roque, de Flozins, du Coulet, dont me parlait Moïse, comment l'interpréter? Et voilà notre histoire du Vior qui se termine maintenant.
Voilà.
Eh bien, Jérôme Vialary, merci infiniment de nous avoir enchantés, transportés dans ces périodes vraiment riches et vraiment passionnantes. Merci encore une fois.
Merci à vous.